Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission du 30 mai 2022, évidemment qu'on est toujours en 2022. Vous êtes bien dans l'Agité du local, votre émission autour de l'actualité en Mayenne. Alors il y a un petit peu de ma voix qui est partie, mais elle va revenir très très vite et ça va pas nous empêcher dans cette émission de parler de la course contre la faim auxquels ont participé les collégiens de Château-Gontier, des écoliers aussi, vous l'entendrez. On va parler aussi, toujours du côté de Château-Gontier, de la Capoeira et d'un festival organisé tout ce week-end qui va vous permettre peut-être de découvrir ou même de vous initier à cet art martial. Et puis on va parler aussi Maison de l'Europe avec... C'est la Maison de l'Europe qui nous propose plutôt sa chronique autour du plan de relance européen avec une conférence proposée sur le sujet en fin d'émission. Et on commence aussi cette semaine un nouveau feuilleton, et oui. Et donc c'est le premier épisode, forcément, puisque nous sommes lundi. Aujourd'hui, feuilleton autour de la Seconde Guerre mondiale où on entendra aussi des témoins, témoins qui a d'ailleurs interrogé Andy qui est avec nous aujourd'hui. Salut Andy.
Salut Marie, comment ça va ?
Eh ben ça va, écoute, si tu retrouves ma voix perdue dans un coin, je veux bien que tu me la rendes.
Mais moi très, aussi, je tousse un peu.
Ah ben c'est génial, super, on fait tous
l'équipe
de la radio.
De notre radio.
Avec des voix peut-être pas habituelles, mais des voix qui vont servir à... qui vont suffire en tout cas pour présenter cette émission. Et on ne change pas la formule en tout cas de l'émission, puisqu'on va commencer là aussi par un point sur l'actualité avec cette nouvelle mobilisation des agents du médico-social mayennais.
C'est la CGT de la Mayenne qui appelle un pique-nique revendicatif demain à partir de midi sur le pont Aristide Briand. Cette action est organisée dans le cadre d'une mobilisation nationale pour la revalorisation des salaires et une augmentation des moyens humains et financiers.
Un feu de pavillon s'est déclaré ce matin à Louverney.
Et oui, il s'est déclenché aux alentours de 6h du matin dans un pavillon dans la rue Nationale. Le risque de propagation était élevé, c'est pourquoi 42 sapeurs-pompiers ont été mobilisés au plus fort de l'opération. Aucune victime n'est à déplorer et le feu ne s'est pas propagé aux alentours.
4 nouveaux lits en service de réanimation à l'hôpital de Laval.
Le service de réanimation va ouvrir une nouvelle unité de surveillance continue qui va donc permettre une augmentation de la capacité de ce service.
Et toujours à l'hôpital de Laval, l'aumônerie recherche des bénévoles.
Comme beaucoup d'associations, les bénévoles manquent depuis la crise du Covid. C'est pourquoi l'aumônerie de l'hôpital de Laval lance un appel pour reconstituer une équipe pour rendre visite aux malades. Il faudra venir une fois par semaine ou une fois par mois. Si cela vous intéresse, vous pouvez contacter le 06 71 92 26 16.
Benjamin Thomas, vainqueur des boucles de la Mayenne.
Le Français de l'équipe Cofidis remporte le classement général de la course mayennaise avec 3 secondes d'écart sur Benoît Cosnefroy. C'est Juan Sebastian Molano, le Colombien de l'équipe UAE Team Emirates, qui a remporté la dernière étape hier entre Martigné et Laval.
Et puis toujours en sport, Bertrand Gérard, le manager général de l'US Changé, remercié par le club.
Il était au club depuis 2005 et manager général et entraîneur de l'équipe première du club évolue en National 3. Depuis la saison 2014-2015, malgré le maintien, l'US Changé a décidé de s'en séparer. Son successeur sera prochainement communiqué.
Et puis eux n'ont pas fait de foot, mais de la course à pied contre des dons. C'était le principe de la course contre la faim au parc de loisirs à Château-Gontier qui s'est déroulé mercredi dernier sous le soleil avec tous les élèves du collège Jean Rostand à Château-Gontier et des écoliers du territoire. Alors pour la 13e année, tous se sont mobilisés pour Action contre la faim, comme l'explique Annie Grudet. C'est la conseillère principale d'éducation du collège en charge de l'événement.
Alors précédemment, en fait, avant la course, ils ont été sensibilisés à la faim dans le monde par un bénévole de l'association Action contre la faim. Donc ça, c'était en avril. De cette sensibilisation, ils repartent avec un petit livret solidaire. Ils doivent trouver des parrains par tour parcouru. Donc le tour, il fait à peu près 1 km. Et ça, c'était en avril. Et là, bah, ils font le plus de tours possible, sachant qu'en général, la grande majorité fait 10 tours. Par exemple, s'ils ont eu 1 euro par tour parcouru, bah, s'ils font 10 tours, ça fait 10 euros à récolter pour l'association. Tous les élèves du collège, plus les écoles primaires, alors les plus grands en général, CE2 éventuellement, CM1, CM2 des écoles primaires du secteur public, et un groupe d'élèves de l'IME qui vient régulièrement au collège. En troisième, ça commence à être un peu plus dur pour certains, parce qu'après, ils se mettent d'autres challenges, ceux qui feront les 10 tours le plus rapidement possible. Hein, mais sinon, les plus jeunes, oui, ils partent. Ils sont très partants pour ce genre de défi. Alors, l'année dernière, on avait fait une marche masquée contre la faim. Donc, c'était un autre projet, mais ça avait bien marché aussi pour le coup. le fait qu'ils aillent chercher les parrains, donc ils sont obligés de parler de l'association, de la faim dans le monde, enfin voilà, de pourquoi ils vont courir. Donc oui, ça fait aussi partie du projet, au-delà de ce moment festif qui est l'aboutissement. Voilà.
Bonjour, je m'appelle Augustin Houry, je suis élève en 3e au collège Jean Rostand. Bah, la course a été facile dans les 7 premiers tours et ça se durcit dans les 3 derniers. Donc ça fait mal aux jambes, mais on continue pour courir pour Action contre la faim. Depuis le CM2, je le fais tous les ans. Et le but, c'est de faire 10 tours pour ramener le plus de sous à l'association d'Action contre la faim, qui va donner les sous aux Africains et pour le Kenya cette année. C'est courir pour des gens qui n'ont pas d'eau dans leur pays, qui n'ont peu à manger, donc ça fait plaisir de courir pour eux.
Oui, on a interrogé aussi d'autres élèves qu'on n'a pas forcément pu diffuser, qui étaient aussi très contents de participer à une course pour cette association. Et d'ailleurs, bilan à la fin, les élèves ont récolté 11 775 euros de promesses de dons pour 5 840 km effectués.
Et tout de suite, l'interview du jour avec la fête de la Capoeira Azé qui aura lieu ce week-end. Mais avant, on écoute Danse Courcheval, danse de Courcheval.
You have proved that you fight well. Now you can join us.
Que c'est beau un homme à terre quand ça brûle à l'intérieur. Une fantaisie militaire, pas d'armure, juste pour l'honneur. T'es ridicule, te dit ton père, t'es pas comme ça, c'est pour les folles. Mais moi je veux pouvoir tomber, c'est ça aussi être un homme. Je veux pouvoir danser. Je veux pouvoir danser. Être un fils à tes yeux. Et enfin être heureux. Pas de lampe, c'est pour les autres. Allez mon fils, il faut te battre. Moi qui rêvais de je t'aime, pas que dans la gueule des claques. Ça fait pas très masculin. Allez encore une pour ta pomme. Mais moi je veux pouvoir pleurer. C'est ça aussi être un homme. Je veux pouvoir danser, être un fils à tes yeux, pouvoir me relever et enfin être heureux. Je veux pouvoir danser, être un fils à tes yeux, pouvoir me relever et enfin être heureux.
Now you can join us. C'était Danse Courchevel, danse très logiquement du groupe Courchevel que vous venez d'entendre dans l'agité du local. Et on va rester un petit peu en musique, musique mais pas seulement, hein, puisqu'on va parler capoeira avec le festival organisé ce week-end à Azé par le COB. Alors, il y a un nom en brésilien, mais je ne veux pas me risquer à le prononcer. En tout cas, COB, c'est pour Capoeira Orirem do Brasil, qui organise donc la deuxième édition de ce festival avec au programme des initiations, mais aussi des démonstrations par évidemment des pratiquants de capoeira depuis bien longtemps. Et c'est l'occasion justement de venir découvrir cet art martial qui associe aussi la musique, la langue portugaise et tout un univers. Ça se passe ce week-end à Azé et je vais laisser les principaux organisateurs en parler.
Donc bonjour à tous, je me présente, je suis moniteur Ogre, mon prénom c'est Fabrice Duchesne, je suis l'enseignant sur la ville de Château-Gontier. Donc j'enseigne ici déjà depuis 5 années, maintenant on est à la salle Pomperdreau à Azé. Donc j'encadre une trentaine d'élèves, il y a à peu près 15 enfants, 15 adultes. Donc voilà, c'est une discipline, donc j'enseigne la capoeira, c'est une discipline qui est venue du Brésil. C'est un art martial qui est caché sous forme de danse, voilà, c'est acrobatique, avec une partie musique, une partie séquence de mouvement, je rappelle encore, acrobatie.
Bonjour à tous, moi je suis Marilyn Coquemont et mon nom capoeira c'est Cogumel. Moi je pratique la capoeira depuis 3-4 ans à peu près et j'ai commencé sur le tard mais j'incite tout le monde à venir nous rencontrer et découvrir cette discipline qui est vraiment très très sympa.
J'avais une petite question anecdotique pour commencer. Comment est-ce que sont désignés vos surnoms ? Parce qu'on voit, vous vous êtes présentés chacun avec ça. C'est vous qui les choisissez ? C'est le groupe qui choisit ? Comment ça se passe ?
Non, normalement, c'est les maîtres. C'est lors de passage de graduation ou suivant les personnes, s'ils ont un petit... quelque chose, une mimique ou...
Une anecdote.
Voilà, une anecdote.
Un trait de caractère.
C'est ça. C'est pour ça qu'on leur donne leur surnom. Donc, on avait eu un élève... Je me rappelle qu'il faisait toujours la roue sur les poings et son surnom, ça avait été Tarzan. Donc, c'est des petites anecdotes ou des petites choses qui caractérisent l'élève.
Qui permettent aussi, j'imagine, de personnaliser pour le coup.
Et aussi, tout à fait. Donc, les surnoms à l'époque de la capoeira, c'était pour cacher leur prénom, tout ça, parce que c'était interdit à l'époque. Donc, c'était avec des surnoms.
Qui justement sera à l'honneur les 4 et 5 juin par ce deuxième festival de capoeira ici à Azé. Qu'est-ce que vous proposez justement et aux élèves et au grand public lors de ce festival ?
Alors lors du festival, on propose des stages. Donc on va regrouper déjà les élèves de nos civils dans le département de la Mayenne. Donc on a civils, donc Château-Gontier, Laval, Évron, Vilaine-la-Juhel, Changé et Mayenne. Donc ces cours sont encadrés avec mes deux amis avec qui on a créé le collectif Capoeira Origine au Brésil. Il y a Carcajou, qui est Guillaume Le Breton, et Bombert, qui est Christophe Poirier. Voilà. Donc lors de ce week-end, le samedi, ce sera des stages pour les élèves, stages de capoeira. On a invité 13 maîtres et professeurs qui viennent de France, Brésil, Belgique. De 11h à midi, on aura une initiation pour les débutants, que ce soit parents ou enfants, de 11h à midi. Donc l'événement se passera à la salle au complexe Unisport d'Azé. Le midi, on fera un petit buffet partagé, quelque chose de sympathique. Et l'après-midi, on recommencera avec des stages de capoeira jusqu'à 16h. Nous irons à la médiathèque de Château-Gontier pour faire une démonstration de capoeira. Et je sais en plus que c'est la braderie, donc on fera sûrement des acrobaties dans la rue et des choses comme ça pour animer un petit peu la braderie et nous faire connaître.
C'est ce que j'allais vous dire, justement, c'est aussi l'occasion de vous faire connaître, ouais. Puisque la capoeira n'est encore pas très connue, ou en tout cas on peut avoir pas mal d'idées reçues sur cette pratique aussi.
Oui, c'est pas très démocratisé. C'est vrai que les gens connaissent pas. Ou alors les personnes pensent que c'est de la danse, hein. Pas forcément un art martial. Donc aussi c'est un moyen de faire découvrir un art martial qui est pas très connu. Sur Château-Gontier, c'est vrai qu'il y a un club de judo et enfin karaté quand même qui prend le monopole, on va dire. Et c'est pour nous c'est un moyen aussi de nous faire connaître auprès des castro-gontériens.
Comment est-ce que vous avez découvert justement d'ailleurs cet art martial?
Justement, moi, c'était un événement, c'était à Chalibaud, hein, au cours de la Chalibaud, hein, et j'avais trouvé ça très sympa. Et première chose que je me suis dit, c'est pas fait pour moi, parce que c'est vrai que c'est, y a des acrobaties et c'est quand même assez physique. Et puis je me suis dit, bon allez, pourquoi pas, je vais oser. Et j'ai osé, et franchement, je regrette pas d'avoir fait le pas. Voilà, et je trouve que c'est vraiment une discipline qui apporte beaucoup de joie, en fait, puisqu'on chante et on joue des instruments aussi. On est tous ensemble, et voilà, c'est un peu une petite famille, hein. La capoeira, quand on y rentre, on met le pied dedans, on a du mal à en sortir après, hein.
Puisqu'effectivement, il y a vraiment le fait que ce soit donc un art martial, mais il y a aussi l'instrument de musique, enfin, jouer d'un instrument de musique, parler portugais aussi, tout ça, ça fait partie de la capoeira.
Oui, tout ça, c'est la culture brésilienne, la culture de la capoeira. Donc, on joue des instruments. Les instruments, c'est les berimbau. C'est ce qui dirige les rodes de capoeira. On a aussi atabaque, chez vous, ça s'appelle un congas. Congas, et les pandeirs, qui sont les tambourins aussi en France. On joue des instruments, on chante en portugais. Donc, ça aide pour l'apprentissage de la langue. On a aussi le projet, j'espère, dans quelques années, de pouvoir faire venir quelques Brésiliens ici, de faire des échanges. Que des Brésiliens viennent pendant 3 mois et qu'en retour, quelques Français puissent aller aussi au Brésil pour découvrir leur culture.
Donc ça, ce serait potentiellement un projet en 2023-2024?
Oui, 2023, je pense. Hein. C'est possible. On a eu l'occasion d'aller au Brésil en février avec mon ami Carcajou, Guillaume. Donc on a été passer 3 semaines là-bas avec contremaître Fétissaire qui est de Brest. Donc c'est un contremaître qui a déjà aussi un beau travail sur Brest. Et c'est vrai que l'accueil, les gens, on a pu s'entraîner avec les Brésiliens, voir la vraie capoeira, les richesses. On va dire, on a été aux racines de la culture.
Donc ça, c'est évidemment ce que vous aimeriez proposer à tous les élèves. Alors ce serait compliqué, mais à certains en tout cas qui puissent en profiter. Donc je le disais, il y aura des initiations proposées à 11h. L'idée, c'est vraiment que tout le monde puisse tester. Il n'y a pas forcément d'histoire d'âge ou de conditions physiques prérequises ou autres.
Non, on adapte les séquences, on adapte les mouvements suivant les personnes. Tout le monde est différent, tout le monde a ses petits soucis. Donc, suivant l'âge, on va pas demander non plus de faire ce qu'on appelle la roue, des choses assez compliquées à une personne plus âgée, mais déjà aussi qu'elle fasse déjà la jing. La jing, c'est le pas de base de la capoeira. Et après, qu'elle essaye déjà de se sentir bien dans son corps et puis à alterner avec du renfort, tout ça. On peut travailler beaucoup de choses, hein.
Et c'est justement un art martial qui est assez accessible, dans le sens où là, c'est vrai que sur une initiation d'une heure, on peut se dire que c'est assez court. Est-ce qu'on a quand même le temps de déjà tester et de profiter quand même de cette initiation?
Oui, sur une heure, oui, non, c'est bon. Il y aura une partie échauffement et ensuite partie découverte des mouvements. Bon, c'est pas des mouvements qu'on fait tous les jours, hein, c'est sûr, on réveille, mais déjà le corps va pouvoir s'adapter et voir un petit peu dans quelles conditions on est. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes. La capoeira, c'est où on le ressent dès le début, ou ça mettra un peu plus de temps. Mais avec la partie musique, tout ça, si on est bien dedans, si on aime s'amuser, on aime bouger, ça permet aussi pour l'agilité de s'améliorer. C'est bon pour le corps.
Je pense qu'avec la musique, en fait, ça... On se met tout de suite dans l'énergie parce que c'est, enfin, moi je le ressens comme ça, c'est pas comme un autre art martial où il n'y a pas en fait cette partie musique et chant, parce que le chant, c'est assez vibratoire aussi quand même au niveau des énergies. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que des fois on arrive, bah, on est un petit peu grippé, on se dit oh là là, faut que je motive, et puis en fait au bout de 5 minutes on est parti. Enfin, voilà, c'est la musique aussi, ça nous met en éveil, quoi. C'est vraiment super.
C'est une dimension aussi importante, donc, ouais, de ce
oui,
qu'on disait
oui,
de la
oui.
capoeira.
Qui change des autres arts martiaux. Enfin, moi, je le ressens comme ça, en tout cas.
Et l'idée, c'est justement, si on l'a découvert lors de ce week-end, de pourquoi pas s'inscrire à la rentrée. J'imagine qu'il y a aussi ça derrière,
si
on est
plaisir.
Intéressé.
Ce sera avec plaisir, oui.
Donc, en tout cas, effectivement, là, il y aura cette initiation le midi. Et puis aussi, on pourra voir des gens qui maîtrisent déjà un petit peu plus. Il y aura ces démonstrations, donc à partir de 16h, c'est ça. Là, c'est les meilleurs élèves. Qui est-ce qu'on pourra voir?
Non, ce sera tout le monde, mais on aura aussi une partie acrobatie avec des maîtres, comme vous dites, qui ont un très bon niveau, hein. Ils font ça comme si nous on faisait la roue, qui est déjà très simple pour nous, mais question salto ou question acrobatie, oui, non, ça touche déjà pas mal.
Avec, c'est ce que vous disiez aussi, toute une cérémonie de passage, de graduation, c'est un moment important en tout cas pour les élèves. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce que c'est, tout simplement?
Alors oui, donc ce sera le dimanche, on commencera par une cérémonie, ce sera à 14h, donc cérémonie ouverte au public, où tous les élèves du COB et certains adultes et certains gradés vont recevoir leurs cordes, donc suivant leur année d'entraînement, s'ils ont participé à des démonstrations, s'ils ont travaillé leurs instruments, enfin tout ce qui va avec, il y a certains critères à faire pour passer de grade, mais pour les enfants, ils changent de grade tous les ans, jusqu'à à peu près 10 ans, 11 ans. Après, à partir de 11 ans, ils passent adolescents. Là, on demande d'autres choses, qu'ils savent jouer du berimbau, qu'ils savent chanter en même temps, à tabac, jouer des instruments. Et donc, voilà, les passages de graduation, donc on leur remet leurs cordes. Donc nous, ce n'est pas des ceintures, c'est des cordes, pour rappeler l'esclavage, parce que les esclaves étaient attachés avec des cordes. Donc c'est des cordes, suivant avec des couleurs bien spécifiques, suivant notre système à nous de graduation. Voilà, donc les élèves vont jouer avec un maître, jouer avec un prof, tout ça. Peut-être tomber une fois, deux fois, mais voilà, au moins ils vont jouer et sentir vraiment ce qu'est la capoeira avec et tout ça avec l'énergie de, on va être à peu près, je pense, 140 personnes. 140 personnes à chanter, à taper dans les mains, donc il y aura une belle énergie.
J'imagine que c'est rare aussi que vous ayez l'opportunité de vous réunir tous ensemble, là, d'avoir 140 personnes en même temps. Ça
va être chaud, ça va être très très chaud, ça va être très chaud. Bah oui, avec le Covid, on a été bloqué pendant 2 ans, donc c'est vrai que là, on peut refaire notre festival cette année. Donc on est très heureux, on attend vraiment beaucoup de personnes qui viennent nous voir. Il ne faut pas hésiter, c'est vraiment un sport ouvert à tous et ce sera vraiment un grand plaisir de vous recevoir.
Au niveau pratique, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut réserver? Est-ce qu'on peut venir comme ça? Qu'est-ce que vous conseillez?
Donc après, nous en tant qu'élèves et puis toutes les personnes qui viennent pour le festival sont déjà inscrites. Et après, c'est ouvert au public. Donc c'est aux Azélines.
9h-18h, vous pouvez nous trouver au complexe des sports des Azélines. Vous venez nous voir, venez essayer si vous voulez, venez discuter et on vous donnera les informations nécessaires.
Juste une dernière petite question parce que j'ai oublié de vous en parler. Vous disiez c'est vraiment ouvert à tous et ouvert aussi dès les tout petits puisque le samedi matin il y aura toute une matinée autour de l'éveil de l'enfant. C'est aussi l'occasion j'imagine d'avoir d'autres ateliers mais avec mêlés à la capoeira aussi.
Oui c'est ça, oui c'est parce que nous sommes avec la fédération FSCF, Fédération française de sport et de la culture. Et c'est un stage d'éveil qui est pour tous les enfants. Donc on a pas mis des inscriptions en Sarthe, on a mis des inscriptions à côté d'Angers et aussi sur ici sur Château-Gontier. Donc on espère accueillir des enfants à partir de, je crois, 5 ans. 5 ans pour faire de l'éveil avec la fédération. Il y aura une petite structure gonflable, tout ça pour que les enfants puissent s'amuser. Et on alternera avec nous nos enfants de 9 à 11 ans pour qu'ils aillent un petit peu avec la FSCF, la fédération. Il y aura 3 animateurs qui seront sur place. Et tout ça, oui, c'est un échange, c'est pour tout le monde.
Bah écoutez, venez nous rendre visite, nombreux, hein, y a pas de souci, vous serez super bien accueillis. Et voilà, on vous attend.
Et oui, on vous attend, donc on rappelle, ce sera samedi de 9h à 18h au complexe sportif d'Azé et dimanche de 9h30 jusqu'à 18h et c'est gratuit évidemment pour le grand public, donc à ne pas manquer ce week-end.
Et on va passer à la chronique de la Maison de l'Europe, on revient juste après les trois loupards de voyous.
Jamais je n'avais vu tomber autant de pluie de toute ma vie. D'un coup les rues se sont vidées, d'un coup la vie s'est arrêtée. Me voilà seul dans une ruelle et la pénombre cache trois drôles de garçons. Le premier sort et me parle un peu de la pluie qui nous visite. Le deuxième à son tour arrive et me demande une cigarette. Mais le troisième a dans la tête plus d'une emmerde que mes poches pourraient régler. Et sa gauche s'était lancée, oh oh. Et paf sur le boulevard, la tête dans le brouillard. Pourquoi je parle au loupard? J'en sais rien, c'est le jeu. Je vais pas raser les murs. Ils m'ont pris mes baskets, ma veste, mes cigarettes. Pendant que je restais sur place, sans un mot, sans un geste, et l'air désabusé. Jamais je n'avais fait tourner autant une scène en mon esprit. En la rejouant, me venaient quelques réponses bien senties. Que j'aurais pu lancer sans peur aux trois voleurs, quitte à se faire amocher. Autant dire ce que ça fait.
autre chose à faire que de voler mes affaires. Tu veux pas raqueter un mec qui a les moyens demain de tout se racheter. Si je sors bien les violons, ils vont me rendre mon blouson. Peut-être même mon téléphone, je récupère mes affaires et je leur file ma monnaie. Jamais je n'avais vu tomber autant de pluie de toute ma vie. D'un coup les rues se sont vidées, d'un coup la vie s'est arrêtée. Me voilà seul dans une ruelle et la pénombre cache trois drôles de garçons qui en veulent à mon blouson. Oh oh. Et paf sur le boulevard, la tête dans le brouillard. Pourquoi je parle au loupard, j'en sais rien, c'est le jeu, je vais pas raser les murs. Ils en veulent à mes baskets, ma veste et mes cigarettes. Je vais pas rester sur place sans un mot, sans un geste et l'air désabusé. T'as pas autre chose à faire que de voler mes affaires. Tu veux pas raqueter un mec qui a les moyens demain de tout se racheter. Sorti les violons, ils m'ont rendu mon blouson. Et même mon téléphone, j'avais toutes mes affaires, j'aurais filé ma monnaie.
Voyou, les trois loupards, c'est ce qu'on vient d'écouter dans l'agité du local. Vous êtes toujours bien sur l'autre radio et on va passer à la chronique de la Maison de l'Europe pour parler aujourd'hui de financement du plan de relance européen avec Renaud Lafourcade. On va parler aujourd'hui plan de relance européen. La Maison de l'Europe organise un événement demain sur ce sujet, Renaud Lafourcade.
Effectivement, la Maison de l'Europe organise une conférence sur le plan de relance européen en Mayenne qui s'appelle Next Generation EU le 31 mai à 19h30 dans la salle du conseil de la mairie de Laval.
Et alors c'est quoi Next Generation EU ?
Next Generation EU, c'est un plan de relance inédit de 750 milliards d'euros qui a été négocié il y a 2 ans par les pays membres de l'Union européenne pour faire face aux conséquences de la crise du coronavirus.
Et en quoi c'est inédit ?
C'est inédit parce que c'est la première fois que l'Union européenne effectue un emprunt d'une telle ampleur et en son nom. Et surtout, c'est la première fois qu'elle va lever ses fonds pour rembourser l'emprunt. Ce plan de relance, il est extrêmement important pour de nombreux pays européens qui n'auraient pas pu financer une relance par eux-mêmes.
Et pourquoi ?
Simplement parce que pour de nombreux pays européens, surtout les pays du sud de l'Europe comme l'Italie et l'Espagne, emprunter sur les marchés financiers aurait été très difficile à cause des taux très hauts. Et leurs économies n'étaient déjà pas très en forme avant la crise. Donc effectuer une relance aurait été impossible sans que l'UE emprunte directement sur les marchés financiers et redistribue ensuite à ses membres.
Et comment l'Union européenne peut emprunter autant et comment va-t-elle rembourser cet emprunt ?
Donc la première chose importante, c'est que c'est la Commission européenne qui a emprunté. Et pour ce faire, les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se sont portés garants de la Commission européenne. C'est un peu comme si les 27 pays de l'Union européenne avaient emprunté ensemble. Une fois que cet argent est levé sur les marchés financiers, c'est la Commission qui le redistribue aux États membres, soit en leur donnant une subvention, soit un prêt. Les prêts se font à un taux inférieur à celui que les États auraient rencontré sur les marchés financiers, donc le prêt reste intéressant pour tous les États membres. Pour le remboursement, ça se fera grâce à des ressources nouvelles. On peut penser à une contribution sur le plastique, une taxe sur les géants du numérique ou encore un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières extérieures de l'Union européenne. D'autres sources de revenus ont été envisagées, mais l'idée principale, c'est qu'il ne faut pas augmenter les contributions nationales pour rembourser la dette. Et il faut le noter, car le remboursement par la Commission européenne et donc par l'UE, c'est aussi inédit et important que l'emprunt. La dernière chose inédite avec ce plan de relance, c'est que tout cet argent est conditionné au respect de l'état de droit. C'est un des points sur lesquels le Parlement européen s'est montré uni et n'a pas cédé un seul instant.
Et alors, comment se traduit ce plan de relance européen en France ?
Comme dans chaque pays, la France bénéficie d'une part du plan de relance européen. La France est d'ailleurs le troisième bénéficiaire du plan. Et le plan de relance français est financé en partie par de l'argent européen, et en partie par un emprunt fait par l'État français. Une partie des mesures du plan de relance français sont financées par les fonds européens et l'autre partie par les fonds français. Ce plan de relance, vous avez déjà peut-être entendu, c'est France Relance.
Et alors, en Mayenne plus précisément, comment l'argent arrive et quel type de projet permet-il de financer ?
En France, l'argent du plan est distribué par les régions pour une part et par les préfectures pour l'autre part. Il s'adresse à la fois aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités. Pour donner quelques exemples concrets, certaines aides à l'embauche sont financées par le plan de relance. Et le plan de relance européen a aussi permis de financer la rénovation de la cité administrative à Laval ou encore l'achat d'équipements informatiques dans les écoles de Saint-Berthevin. Pour en savoir plus sur le fonctionnement du plan de relance en Mayenne et ce qu'il permet de financer, n'hésitez pas à venir voir la conférence que la Maison de l'Europe en Mayenne organise le 31 mai. Vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions sur les opportunités offertes par le plan de relance à nos invités, Isabelle Maquet qui est conseillère économique à la Commission européenne et Mathieu Prendiel qui est conseiller Europe à la Caisse des dépôts qui propose des fonds complémentaires à ceux de l'UE. Et à nos témoins qui ont bénéficié du plan de relance et qui vous montreront des exemples concrets de ce qui a été financé. La conférence s'adresse à tout le monde, que vous soyez membre d'une collectivité, entrepreneur ou simple citoyen.
Et donc si vous êtes intéressé, rendez-vous demain à 19h30 à l'hôtel de ville de Laval, plus précisément dans la salle du conseil. Et puis on va passer, Andy, à notre premier épisode de notre feuilleton de cette semaine.
Et oui, l'ORPAL, une association d'animation pour personnes âgées, a organisé la projection d'un film. C'était un documentaire réalisé par Stéphane Pio autour des Lavallois pendant la Seconde Guerre mondiale. Deux témoins de la guerre étaient présents avec Jeanne Bongard et Marie-Thérèse Crespel. Elles avaient 6 et 7 ans au début de la Seconde Guerre mondiale. Elles vont nous raconter dans ce premier épisode comment elles ont vécu les débuts de la guerre et l'arrivée des Allemands à Laval.
Le dimanche 3 septembre 1939, la Grande-Bretagne puis la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Les églises de Laval sonnent le tocsin. Les hommes, âgés de 20 à 48 ans, doivent gagner au plus vite la caserne indiquée sur leur livret militaire. Laval comptait deux casernes qui abritaient le 124e régiment d'infanterie, Corbineau et Schneider.
Alors écoutez, moi j'ai connu le tocsin à Antram, parce que mes grands-parents avaient une maison d'été, et puis on prenait le car pour faire quelques provisions à Laval pour le week-end, et puis ben, le tocsin s'est mis à sonner, et c'est là que ma grand-mère a dit, ben, c'est la déclaration de la guerre. Voilà. Et attention, le car n'est pas passé, et on est rentré de Laval, d'Antram à Laval à pied, et on est arrivé de nuit. Ben, mon père n'a pas été appelé parce qu'il a subi un accident quand il faisait son service militaire. Il a été trépané, il a été exempté. Mais si, je sais par mes camarades d'école que le papa était parti et elles étaient très tristes. Alors bon, il y en a qui ont été dans des usines et d'autres qui ont été à la campagne. Et c'est ce qu'ils préféraient. Mais il faut dire que la Mayenne aussi, c'était un département rural. Donc... c'était plus leur possibilité.
Le 17 juin 1940, les Allemands entrent dans Laval. Même si elles s'attendaient à leur arrivée, la population lavalloise est apeurée. C'est le début de 4 ans d'occupation.
Ils sont allés dans toutes les maisons bourgeoises qui avaient souvent des parcs. Ils ont réquisitionné des chambres chez des particuliers qui avaient la possibilité. Mais bon, ils se mettaient dans des lieux qui leur plaisaient.
Avec leurs bottes, là, on les entendait bien. Hein. On avait peur, là. Ah non, ça nous a marqué.
Et c'était les Allemands qui étaient là dans ce château. Hein, avant que et on n'avait pas le droit, nous, civils, de passer au pied. Et quand les Américains sont arrivés, au contraire, on avait le droit. Et dites-moi, rue du Général de Gaulle, là, il fallait être sur le trottoir de droite. Et sinon, c'était sur le trottoir de gauche quand on redescendait. Alors, bon, ben, mon père travaillait, hein, parce que, voilà, au syndicat agricole, il livrait la marchandise à Laval. Et puis, ben, ma mère, bon, on était 7, elle avait de quoi s'occuper à la maison.
Ben, mon papa était au chemin de fer, il travaillait au chemin de fer.
Vous avez accueilli des Allemands, comment ils étaient justement ?
Parce qu'il y avait une pièce de libre, c'était réquisitionné. Et nous, on est tombés sur 3 Allemands qui étaient très très bien. Même il y avait des pêches dans le jardin, je me souviens maintenant. Ils n'ont jamais été en chercher. Hein. Et papa, quand il avait vu ça, il avait fait, on avait pris un plat, puis on a, il nous avait dit d'aller leur porter. Ils étaient, ah non, c'est nous très corrects, mais à côté, ils ont tout saccagé.
Et demain, on retrouvera Madame Crispel et Madame Bungar avec un saut dans le futur en 1944 avec les bombardements américains.
Eh bien super, on a hâte d'être à demain pour découvrir ce nouvel épisode. Merci Andy, puisque ça y est, c'est la fin de notre émission L'Agité du Local pour ce lundi. À demain donc.
À demain Marie.
Et puis vous restez avec nous bien sûr, puisque ce soir à 19h comme tous les lundis, vous pourrez retrouver Solénoïde, suivi à 20h de la discothèque de notre programmateur. Et oui, et nous donc on se retrouve demain à 12h15, même horaire comme d'habitude. Je vous souhaite une très belle journée.